On dit souvent que l'histoire, ça tient un fil, hein. Une rencontre, une info qui arrive.
Ou pas?
Oui, tout à fait. Parfois, ça bascule sur un détail.
Et justement, les sources qu'on explore aujourd'hui, elles nous plongent dans ces moments-là, la veille d'une bataille hyper connue, Waterloo, mais aussi le transport, mouvementé d'une œuvre d'art majeure, et puis la vie d'un écrivain en exil qui se retrouve mêlé à tout ça.
C'est ça. On va se baser sur des extraits d'un texte qui s'appelle Morne Plaine. Il y a ce jeune Italien qui surgit de nulle part. Il y a le David de Michel-Ange. Et puis Stendhal, Henri Bayle.
D'accord. Alors, notre objectif ici, c'est quoi exactement? Mais c'est de décrypter ces morceaux d'histoire, de voir comment elles s'emboîtent, les ironies là-dedans, et comment tout ça, ben, ça façonne les vies, la grande histoire, et même l'écriture, la littérature en fait. Une sorte d'enquête dans les coulisses.
Super programme. Alors, commençons par cette veille de Waterloo. Plante se noie. Il pleut des cordes, apparemment.
C'est ça, l'ambiance est tendue.
Et là, des éclaireurs français tombent sur un jeune type, un civil italien, un peu paumé sur un cheval de ferme. Et il demande à voir Napoléon. D'urgence. Il veut se battre pour lui. Ça paraît un peu fou, non?
Oui, c'est surprenant. Il baragouine le français, il a l'air un peu naïf, mais très décidé. Et détail assez troublant, on dit qu'il ressemble physiquement au général Comte d'Ay.
Ah oui, le général qui va l'interroger.
Exactement. Et c'est pendant cet interrogatoire, en italien cette fois, en privé, que le truc important sort.
Et qu'est-ce qu'il raconte, ce jeune homme?
Ben, il dit qu'il a réussi à passer à travers les lignes prussiennes, du côté de Voiré. Et là, il a vu une concentration énorme de troupes de Blücher.
Alors que tout le monde pensait Blücher en fuite vers Namur, poursuivi par Grouchy.
C'est exactement ça. L'info contredit tout ce que croit l'état-major. Du coup, le général Da, même s'il était sceptique au début, bah, il est convaincu par les détails que donne l'italien.
Mais ça change tout pour la bataille du lendemain. Si Blücher déboule sur le Flandre Rouge pendant que Napoléon attaque Wellington.
C'est le désastre potentiel, oui.
Catastrophique.
Et donc?
Da et un autre général, Jacquinot, y décident de prévenir Napoléon.
Oui, il réalise l'urgence. Faut absolument que l'empereur sache. Mais la grande question, c'est est-ce que cette info va arriver à temps? Est-ce qu'on va le croire? L'histoire qui se joue sur un peut-être, quoi.
Incroyable. Et pendant ce temps-là, ailleurs, une autre histoire se trame, en Italie, c'est ça? Sans rapport apparent, pour l'instant.
Tout à fait. On suit un convoi militaire français. Ils escortent un cadeau de mariage pour la France, qui se révélera être, excusez du peu, le David de Michel-Ange.
Rien que ça.
Et ce convoi, il se fait attaquer, c'est ça?
Par des brigands.
Oui, c'est comme ça que les Français les appellent. Et dans l'escorte, il y a un certain lieutenant Tosselot, passé un peu trouble apparemment. C'est lui qui capture un des assaillants, un type qui semblait obsédé par la charrette où était cachée la statue.
Suspect.
Et après?
Et après, ben, lors d'une halte, on envoie le prisonnier chercher du bois, avec deux soldats. Et là, bang, un coup de feu.
Et la version officielle?
Tentative d'évasion, abattu, classique. Mais on trouve sur lui un vieux livre, un commentaire de Dante par un certain Lancia. Un livre, bon, une histoire de brigand abattu, ça pourrait s'arrêter là.
Oui, sauf que, des années plus tard, en 1831, on lit dans Le Moniteur, le journal officiel français,
Oui.
l'annonce en grande pompe de l'arrivée du David à Paris. Un don généreux et enthousiaste du peuple italien. Tu parles?
La propagande à plein régime.
Exactement. Et cerise sur le gâteau, dans le même numéro, on annonce la nomination d'Henri Bayle, Stendhal donc, comme consul à Civita Vecchia. Et pourquoi? Entre autres, pour avoir bien escorté ce fameux cadeau.
Ah, d'accord. Le lien se fait. Il est récompensé pour ça. Ça lisse complètement la violence du truc, quoi.
Complètement. Et ça nous amène justement à Civita Vecchia, où Bayle, le consul fraîchement nommé, rencontre un jeune écrivain français en exil, Jérôme Montalvet.
Exilé pourquoi lui?
Pour un pamphlet anti-gouvernemental. Et c'est là que franchement, les fils se nouent d'une façon assez dingue.
Racontez.
Montalvet, il sympathise avec Bayle. Il lui emprunte des livres et un jour, il emprunte ce fameux commentaire de Dante, celui trouvé sur le brigand.
Celui récupéré par Tosélio.
Oui. Et Montalvet le prête à son tour à un visiteur qui vient le voir en secret, Giuseppe Garibaldi.
Garibaldi! Le Garibaldi!
Lui-même, avant qu'il ne soit la légende qu'on connaît. Et là, coup de théâtre, Garibaldi reconnaît le livre.
Comment ça?
Il appartenait à son frère Renato, tué des années plus tôt, en combattant les soldats français qui emportaient le David.
Non, le brigand, c'était son frère, un patriote italien.
Exactement. T'imagines le choc? Garibaldi prend le livre, évidemment. C'est la relique de son frère, quoi.
Ça a dû secouer Belle d'apprendre ça, non? lui qui a escorté la statue.
On imagine. Et il en discute beaucoup avec Montalvet. Il parle de l'exil, de la censure. Montalvet se plaint qu'on leur demande d'écrire des héros positifs, tout ça. Il parle de Victor Hugo aussi, exilé.
Et Montalvet, il lui dit quoi sur l'Italie, sur le David ?
Ah ben il est furieux. Il vide son sac. Il parle du pillage de l'art italien par la France. Il traite le Louvre de caverne de brigands. Il rappelle sûrement à Bayle l'hostilité qu'il a dû sentir pendant sa mission d'escorte.
Oui, ça a dû le travailler personnellement, lui qui aimait tant l'Italie. Se retrouver mêlé à ça.
Profondément, je pense. Et toutes ces histoires qui se croisent, le livre, Garibaldi, la colère de Montalvet, ses propres souvenirs, eh bien, ça le pousse à réagir.
Comment ? Il écrit quelque chose ?
Oui, mais pas un article ou un essai. Il réagit par la littérature. Il est en train d'écrire La Chartreuse de Parme et il décide de modifier son personnage principal, Fabrice Del Dongo.
Ah oui ! Qu'est-ce qu'il change ?
Figure-toi qu'ils avaient parlé, Bayle et Montalvet, de cette vieille légende du jeune italien qui aurait sauvé Napoléon à Waterloo.
Le type du début ?
Peut-être bien. En tout cas, à l'origine, Fabrice devait être ce héros providentiel dans le roman. Mais Bayle change tout.
Il en fait quoi alors ?
Il en fait l'anti-héros total de Waterloo. Fabrice traverse la bataille comme un somnambule. Il ne comprend rien à ce qui se passe. Il cherche son régiment. Il voit des choses horribles, mais sans saisir l'enjeu. Il n'accomplit rien d'héroïque. Il finit juste perdu dans la pagaille, la débâcle.
Ah d'accord. C'est sa réponse à lui, en fait. Une réponse subtile à l'héroïsme officiel, à la propagande.
Exactement. C'est une forme de subversion littéraire. Une manière de dire « Onf, la guerre, la gloire, c'est pas si simple, c'est confus, c'est moche ». C'est peut-être aussi une façon pour lui d'expier sa propre participation, même involontaire, à cette histoire du David.
C'est fascinant comme tout s'entremêle. Donc, si on résume... Une info cruciale qui se perd peut-être aux portes de Waterloo.
Mmh.
Un cadeau culturel qui cache en fait une spoliation violente et un drame personnel.
Oui.
Et un écrivain, Stendhal, témoin un peu malgré lui, qui utilise son roman pour répondre à tout ça, au non-dit de l'histoire officielle.
C'est tout à fait ça. Et l'ironie suprême, c'est que l'homme qui a été récompensé pour avoir aidé à ramener cette œuvre prise en Italie,
oui,
écrit ensuite un des plus grands romans anti-guerre qui démonte le mythe napoléonien à travers le regard perdu de son héros à Waterloo. La fiction, parfois, elle dit des vérités que l'histoire officielle préfère taire.
C'est une belle réflexion. Et ça laisse songeur. On peut se demander combien d'histoires comme celle-là, combien de vérités cachées, de héros oubliés ou de brigands qui étaient des patriotes, dorment encore dans les marges de nos récits. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière les belles façades des monuments et des légendes qu'on nous raconte ?